Auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, je retrouve Anna Besson. Et cette fois-ci, je suis en direct au même endroit que Armand Gall, notre technicien. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde.
Et nous avons Anna qui est chez elle à Bouttersheim. Je suis sûre que je le dis encore mal. Bonjour Anna.
Bonjour Mathilde.
Nous allons commencer par un morceau que vous avez choisi et vous nous le présenterez après.
Thank you.
A Kind of Polska, présenté par Anna Besson aujourd'hui sur Radio Présence dans Musique Traditionnelle. Anna, donc, vous nous avez choisi ce morceau. Je vous laisse nous dire pourquoi. Moi j'ai adoré, Armand aussi. Je parle en, en son honneur.
Alors, la raison, c'est simplement pour la bonne humeur qu'il véhicule. J'ai découvert ce morceau il y a quelques années en écoutant beaucoup, beaucoup de musique scandinave. Et donc, Gjermund Larsen est un violoniste norvégien que je suis beaucoup, que je trouve extrêmement fort. Et donc, dans ce morceau, il collabore avec le groupe Nordic, également un autre groupe scandinave qui fait appel à des musiciens et suédois et norvégiens pour jouer cette Kind of Polska, puisqu'il s'agit d'une polska, mais un peu déstructurée. Et ça me met en joie, tout simplement.
Alors ça, c'est le groupe Nordic qui joue ce morceau ?
C'est Gjermund Larsen qui a composé le morceau. Et pour celui-ci, il a collaboré avec le groupe Nordic. Ah,
d'accord, je comprends pourquoi j'aime beaucoup. Alors moi, je pensais que les polska, de toute façon, c'était très déstructuré. Mais ça, je laisserai notre amie Aurélie Gier en parler de façon plus précise. Elle l'a déjà fait hors micro de Radio Présence. Donc la dernière fois, Anna, nous étions restés sur votre parcours baroque, traditionnel, classique. Et nous avions parlé des températements, des tonalités. J'aurais voulu reprendre directement, là, tout de suite, le discours là-dessus.
Oui, alors, on avait parlé très brièvement des tempéraments, tonalités, donc ils sont liés, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle, on va dire, où le tempérament s'égalise de plus en plus et donc on a moins besoin de parler de tempérament. Mais alors, je rappelle juste qu'on parlait aussi de différences de tonalités et des effets qu'elles avaient, qu'elles produisaient sur le corps et sur l'esprit des hommes. Puisque le tempérament est donc un compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un demi-ton exact entre chaque note, donc on va faire des compromis, on va dire que cette quinte sera plus petite, que cette octave sera de toute façon juste, parce qu'une octave pas juste, elle fait mal aux oreilles.
Ouh,
c'est
oui.
Un compromis entre les tierces et les quintes, pour être OK. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, selon le compromis dont on va décider, certaines tonalités vont très très bien sonner, et d'autres vont être mises à l'écart. C'est-à-dire qu'elles vont paraître plus dures à l'oreille. Et de ça vont en ressortir des effets vraiment assez spectaculaires quand on écoute telle ou telle tonalité correspondant au tempérament choisi. Alors, on a retrouvé, par exemple, dans des volumes du XVIe siècle, à la Renaissance, on a Hermann Finck, dans sa Musica Pratica, lui était organiste, il était théoricien de la musique, également Giuseppe Zarlino, dans Instituzioni Armonici. Donc là, on est vraiment mêmes années, hein, 1556-1558. Et donc, il nous parle des modes, par exemple. Alors, par exemple, on a vraiment des idées comme le mode dorien à la mélodie la plus légère qui réveille les endormis, réjouit les mélancoliques. Ça, c'est Finck. Et pour ce même mode, Zarlino nous dit, un peu triste, on peut l'employer pour des paroles pleines de gravité, élevées ou sentencieuses. Alors, pour chaque mode, on va avoir des descriptions de la sorte. Le mode hypodorien fait verser des larmes. Selon Finck, Zarlino nous dit larmoyant, désespéré, donc ils sont à peu près d'accord là-dessus. On a aussi le mode, si je continue, on a le mode phrygien, donc selon Finck, attribué à Mars, il entraîne colère et bile. La bile est très présente aussi depuis le Moyen-Âge, puisque c'est elle qui décide les fluides du corps. Tandis que Zarlino dit qu'il incite à la plainte, il est apte aux paroles pleines de larmes et de lamentations. On a le mode hypophrygien, il représente le parasite qui flatte les manières de son maître, donc ça va vraiment chercher loin. Zarlino nous dit qu'il est apte aux matières amoureuses, lamentations suppliantes, cajolerie, flatterie, tromperie. On a le mode lydien, de nature jupitérienne, qui est un mode tout à fait sanguin, nous dit Finck, et tandis que Zarlino dit que c'est le soulagement des soucis qui apporte la joie. On a le mode hypolydien, qui n'est pas rare dans les prières, selon Finck. Certains l'attribuent à Vénus, sous prétexte qu'il préfère l'humanité. L'autre, Zarlino nous dit dévot larmoyant, convient aux matières qui contiennent de la commisération. Ensuite, on a le mixolydien, proche de Saturne. Ce mode se montre avec une voix de stentor, à grands cris, de sorte qu'il terrorise tout le monde. Il faut quand même imaginer que certains modes étaient vraiment choisis en fonction de l'affect en fait, qui produisait chez les gens. Hein.
Oui.
Donc, si jamais on compose, par exemple, en do, en sol, ou dans le mode de la, dans le mode de ré, on savait exactement pourquoi on composait. Ce qui est quand même la grande différence, je trouve, avec aujourd'hui, où avec le tempérament égal, où chaque demi-ton, donc je rappelle, a la même distance entre chaque, ce qui rend quelque chose de très homogène pour toutes les tonalités, on n'a plus besoin de composer en choisissant une tonalité particulière. Disons qu'elles vont toutes sonner de la même façon.
Oui, alors...
Alors qu'à l'époque, c'était très important, elles sonnaient absolument pas pareilles.
Oui, parce que j'entends là toutes vos descriptions. En fait, quand même, on a du mal à se représenter ces modes aujourd'hui, puisqu'on ne les entend plus, et puis peut-être qu'on n'arriverait pas à les apprécier. Mais par exemple, on est parti d'un morceau au début de l'émission, et vous nous avez dit, j'ai choisi ce morceau parce qu'il est joyeux, et qu'il me met en joie, et qu'il me donne de l'énergie. Donc on a gardé, enfin on a toujours ce lien entre l'émotion... et la musique, mais du coup, on les exprime de façon complètement différente, c'est ce que vous dites, en fait.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un peu la magie de l'art. En général, ça peut être un film, ça peut être un tableau, ça peut être de la musique. On est touché ou on ne l'est pas, d'ailleurs. Puis on est touché d'une façon particulière ou pas. On peut être choqué par de l'art, on peut être transi, on peut être amoureux. C'est quand même la force... c'est sublime de pouvoir ressentir ces choses-là en écoutant, en se laissant porter par un morceau, par une chanson, par quoi que ce soit. C'est juste que dans la manière de composer, on va dire, c'était vraiment pris en compte. La tonalité ou le mode était pris en compte. Donc là, je viens de citer des sources Renaissance, mais on a la même chose au XVIIIe siècle. Et pour le coup, là, on parle plus de mode, mais de tonalité. Donc, par exemple, pour Do majeur, Charpentier, qui est un compositeur français né en 1636, hein, il meurt tout début XVIIIe siècle, qui nous dit dans ses règles de composition que Do majeur est gai et guerrier, Do mineur obscur et triste, Ré majeur joyeux, Ré mineur grave et dévot, Mi bémol majeur cruel et dur. En général, quand on est tonalité avec pas mal de bémol ou de dièse, ça va effectivement rendre le tout un petit peu plus dur, un petit peu plus difficile à l'écoute. On a la même chose en Allemagne. Tout ça, c'est lié aussi à la rhétorique. Hein. On parle du discours, le discours musical. On est là pour convaincre les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important en musique tout au long du XVIIIe et même avant. On est là pour convaincre. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser les formes rhétoriques. On va savoir que si on utilise cet intervalle, il va exprimer un saut douloureux, par exemple. Et donc, on sait que si on compose là-dessus, on va utiliser beaucoup de sixtes mineures. Donc ça, c'est très important. Les compositeurs... ne faisait pas qu'apprendre la musique, mais ils avaient aussi des cours de rhétorique.
Donc en fait, il faisait de l'argumentation, là. C'est plus que de l'art, c'est vraiment, c'est presque de la propagande, en fait.
Disons que c'est juste qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui ce système-là. Après, je pense c'était quelque chose qui était... C'était leur cours, hein, donc ils l'apprenaient à l'école, mais encore une fois, nous, pareil, on a appris à lire, on a appris à écrire. Quand on apprend à lire, à écrire, une fois qu'on l'a engrangé, quelque part qu'on l'a compris, on n'y pense plus. C'est la même chose en composition. Hein. Peut-être qu'au départ, s'ils se disent, voilà, j'ai envie de composer une œuvre, par exemple, sacrée, Do mineur était, par exemple, il y a trois bémols à la clé, donc on va considérer que ça correspond à la Trinité. Donc ça peut être une très bonne tonalité, par exemple, pour écrire une œuvre religieuse, sachant que dans les œuvres religieuses, il y a énormément de tonalités. Mais c'est très intéressant, une fois en fait, de savoir ça, de savoir que les traités d'époque parlent de ces tonalités avec vraiment en plus des termes très précis. Matheson, un autre compositeur allemand, par exemple, va nous dire sur Do mineur, là où Charpentier trouve que c'est obscur et triste, lui va dire surtout agréable, charmant, mais aussi triste et désolé. Donc en fait, c'est un peu comme l'horoscope aujourd'hui, je crois qu'on y trouvait un petit peu de tout. Selon comment on se sentait. Mais c'est vraiment...
c'est très intéressant, oui, comme l'horoscope. C'était les dièses ou les bémols à la clé.
Mais il y a des choses vraiment, vraiment très rigolotes. Hein. Ré mineur, par exemple, pour le poète Schubart, un peu plus loin encore dans le 18e, caractère de femme sombre, couvant le spleen et des idées noires.
Ouh.
C'est quand même incroyable.
Oui, en effet. C'est hyper, hyper théorisé tout ça. Hein. C'est pas absolument. Juste j'ai ma plume, je regarde en l'air, un papillon qui passe et j'écris.
C'est les deux. Hein. C'est les deux. On ne peut pas juste faire en fonction... Je pense que ça pourrait marcher de faire une œuvre complètement théorique, c'est-à-dire en disant, voilà, j'utilise cet intervalle parce que ça veut dire ça. Mais je crois qu'au final, si on n'a pas l'inspiration qui va avec sur le moment... On y perd beaucoup.
D'accord.
Finalement, alors. Les œuvres les plus belles, je crois qu'on se met tous d'accord à chaque fois qu'on me demande si tu devais choisir, c'est bien la question qu'on pose à tous les musiciens, si tu devais vraiment choisir un seul compositeur et partir sur une île déserte jusqu'à la fin de tes jours, lequel prendrais-tu? Alors, c'est hyper difficile comme question, évidemment, puisqu'on aime beaucoup de choses, mais je crois que ça serait quand même Jean-Sébastien Bach.
Et oui, c'est celui qui fait vraiment l'unanimité, celui-là.
L'unanimité, c'est le compositeur universel par excellence. Et oui. C'est vrai que, par exemple, là j'ai un concert ce soir avec la musique de Bach, et à chaque fois que je joue une œuvre de Bach, je me dis, mais non, mais c'est celle-là la plus belle.
Oui.
Mais à chaque fois, je me dis ça. Donc le choix est impossible, impossible.
Et tant mieux.
Typiquement, Bach n'écrivait pas pour l'humain, Bach écrivait pour les cieux.
D'accord.
C'est de la musique divine.
On va passer à la deuxième pause musicale. Anna, vous nous avez pris un morceau qui s'appelle Vere. Est-ce que je le dis bien ?
Oui, alors c'est de l'estonien. C'est une ballade, une berceuse estonienne de Marian Nutt, qui est une violoniste et chanteuse. Ça ressemble, c'est Vere Paukere. Voilà.
D'accord, alors on écoute.
J'ai écouté aussi beaucoup et que je chante à ma fille le soir.
C'est une berceuse des pays scandinaves, Anna, que vous aimez chanter à votre fille. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce morceau ?
C'est un morceau qui m'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, que j'ai découvert aussi en écoutant Marian Nutt. Et je trouve ça incroyable, en fait, parce qu'on ne l'entend pas, bien sûr, mais elle est seule en scène. Elle fait tout avec une pédale loops et un micro. Et elle chante et elle joue du violon en même temps. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frustrée après le choix de mon instrument. C'est de me dire que je ne pouvais pas vraiment chanter dedans et faire ce que je voulais. Puisque moi, quand je souffle, j'utilise déjà tout. Et mes doigts et mon souffle. Et j'aurais adoré pouvoir chanter en même temps et accompagner. En fait, je crois que j'aurais adoré pouvoir jouer d'un instrument harmonique également. Et non pas que mélodique, ce que peut faire le violon. Donc, par exemple, tout à l'heure, c'était aussi du violon avec Gjermund Larsen. Je crois que j'aurais adoré faire du violon, tout simplement.
Voilà, donc vous vous êtes dévoilée. On sait tout maintenant. Anna Besson, grande flûtiste classique, baroque, irlandaise, aimerait faire du violon.
Voilà.
Pour s'auto-accompagner. Alors du coup, vous vous faites accompagner souvent quand même.
Ah bah oui, du coup, j'ai trouvé le pendant de ça. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais adoré faire ça.
D'accord. Et là, par exemple, si ce morceau vous a parlé, c'est parce que ça dégage une émotion. Si vous deviez y mettre une tonalité ou un mode, qu'est-ce que vous y mettriez dessus? Le mode Anna Besson.
Le mode Anna Besson, oui. Je trouve ça doux, je trouve ça tendre, je trouve ça apaisant. C'est le mode apaisant. Je peux pas dire en fait une tonalité en particulier puisque à présent ça n'a plus de sens et puis surtout que Maria ne joue pas avec un tempérament spécial, hein. Elle joue égal, hein, c'est-à-dire le tempérament moderne aujourd'hui. Donc choisir une tonalité n'aurait pas d'influence. Ceci dit, si avec le violon, puisque j'imagine qu'elle est que enfin j'imagine pas, non, ça sonne différemment si c'est une corde à vide ou une corde sur laquelle on va poser les doigts.
Oui.
Mais si je devais le décrire comme on décrivait ça au 18e, j'aurais juste dit tendre et apaisant. Voilà. C'est en tout cas l'effet que ça me fait.
Oui, alors finalement, parce que vous avez décrit beaucoup de tempéraments, enfin de tempéraments, non, de tonalités et de modes dans la première partie du podcast. Donc c'était des choses qui étaient extrêmement théorisées, finalement,
oui,
par plusieurs musiciens en fonction de combien de bémol ou de dièse à la clé, en fonction du tempérament, etc. Il y avait cette description théorique de ce que ça faisait. Et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a les mêmes sensations, mais avec un tempérament égal. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a perdu ou comment...
C'est pas vraiment les mêmes sensations parce que... Alors, pour ça, il faudrait vraiment aller écouter un concert, par exemple, avec un orgue historique. Ça, c'est toujours intéressant. Il reste quelques orgues historiques, c'est-à-dire
un orgue historique.
Un orgue historique. Alors, l'orgue est important dans les recherches musicales, puisque si l'orgue n'a pas été modifié, c'est-à-dire si les tuyaux, par exemple, n'ont pas été raccourcis au cours du temps pour mieux correspondre au diapason qui a augmenté, puisqu'on a, en France, par exemple, au XVIIIe siècle, hein, on avait le diapason assez bas, c'est-à-dire que le La était proche de La égale 392 Hz, c'est-à-dire à peu près un ton en dessous de notre La moderne.
C'est-à-dire un sol, quoi, quasiment.
Voilà, ça sonnerait exactement comme un sol.
Voilà,
et ce qui donne une couleur beaucoup plus veloutée, beaucoup plus chaude, en fait, hein, très, très agréable à écouter, aussi plus intime. Et puis petit à petit, le diapason a augmenté. Puis aujourd'hui, dans les orchestres, facilement, on peut avoir un La à 444, c'est-à-dire que c'est très brillant. On a demandé de plus en plus de brillance aux solistes et l'orchestre a suivi derrière.
Oui, j'ai entendu ça, qu'on augmente la fréquence du La un petit peu pour que ça fasse de plus en plus brillant et puis
finalement c'est la course à l'échalote, ça ne s'arrête
c'est
pas
ça.
C'est ça le problème.
Exactement,
c'est qu'on veut toujours briller, on joue toujours un petit peu plus haut, sauf que si l'orchestre veut être juste, il faut qu'il s'adapte, donc tout le monde monte et les pianos sont aussi montés, évidemment. Donc en fait, on met les cordes de plus en plus en tension, donc ça donne beaucoup de brillance, effectivement, mais on a perdu un petit peu ce côté apaisant des diapasons français bas.
D'accord.
Après, alors, l'histoire du diapason, on pourrait aussi faire plein de podcasts dessus. Il y avait plein de diapasons différents, hein, ne serait-ce qu'en France, on avait trois diapasons entre le ton de la chambre, donc le ton égale diapason, le ton de la chambre, le ton de la cour, le ton de l'opéra, le ton de l'église, tout ça. Déjà, c'était à Paris même des diapasons différents. En Italie, on avait des orgues qu'on a retrouvés qui n'ont pas été modifiés avec des tuyaux très courts, c'est-à-dire qui correspondent à un diapason extrêmement haut. En Angleterre aussi, on avait aussi un diapason beaucoup plus haut qu'en France, par exemple. Et par exemple, la cour de Dresde était au diapason français, puisqu'il y avait un lien avec la cour de France. Donc tout ça, c'est intéressant, il y avait plein de diapasons différents. Mais alors, ce que je disais par rapport aux sensations, la musique, peu importe quelque part, la tonalité qu'on prend, elle véhicule, la façon dont elle est composée va véhiculer des émotions. C'est vraiment le premier vecteur, je crois, de la musique. Par contre, c'est vrai que si on va à un concert avec un orgue historique, c'est-à-dire qui n'a pas été modifié, qui a gardé un tempérament historique loin du nôtre, loin, vraiment très loin de l'égal, il y aura vraiment des choses difficiles à écouter parce qu'on a perdu cette habitude.
Oui, on a l'impression que c'est faux. Est-ce que ce serait un peu
Exactement.
Comme quand...
Voilà, on le qualifierait de faux aujourd'hui, alors que pas du tout. C'est juste un choix de tempérament totalement différent de tempérament égal. Mais effectivement, ça sonnerait faux dans les oreilles.
Est-ce que ça fait un peu comme quand les civilisations... Quand on découvre une musique d'une civilisation complètement... éloigné, alors on parlait de l'Inde hors antenne, on peut parler de, je sais pas moi, de civilisations qui sont de l'autre côté de la planète et qui sont difficiles à écouter au début, par exemple le gamelan de Bali,
oui.
parce qu'on n'est pas, en fait notre oreille, elle n'est pas éduquée.
Exactement, même de la même façon qu'on va écouter aussi la cabrette, on va se dire, oh là là, c'est faux ça,
oui,
elle
n'est
juste pas tempérée, égale.
Oui, d'accord, alors est-ce que quand je joue faux au violon, je peux dire que je ne suis pas tempérée, égale?
Alors oui, on pourrait, ça pourrait. Le problème, c'est qu'on va te dire, mais alors, il faudrait quand même avoir choisi un tempérament au départ.
Et voilà, c'est ça. C'est que voilà, c'est pas n'importe toujours, quoi. Voilà, c'est pas, je fais mon tempérament.
On peut toujours dire, alors voilà, moi aujourd'hui, j'ai choisi de jouer dans ce tempérament, donc mes quintes vont être comme ci ou comme ça. L'idée, c'est de savoir exactement à quoi correspond le tempérament qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on a choisi de sacrifier certains intervalles.
Voilà, c'est quelque chose de très précis à l'avance.
De
c'est pas du n'importe
absolument.
Quoi.
Sans des calculs. Hein.
En disant je vais jouer faux parce que supportez-le quoi.
Voilà. Et puis bon, les compositeurs aussi ont renié souvent leur proposition. Donc on a plusieurs tempéraments proposés par le même nom. Et puis on a tempérament 1, 2, 3. Pour Rameau, par exemple, on a plusieurs tempéraments Rameau. Mais lui, à la fin de sa vie, va vraiment renier. Ce qu'il a dit avant, puisqu'il va adopter le tempérament égal, et donc en disant ben voilà, ce que j'ai dit avant ne marche plus.
D'accord, alors est-ce qu'on pourrait peut-être, j'arrive pas à m'imaginer, est-ce que vous pensez que à l'époque de tempéraments différents, donc déjà entre pays et puis au sein d'un même pays et au sein d'un même compositeur, le public avait une oreille plus adaptable?
Oui. Ça, c'est évident, puisque leur formation était comme ça. Je veux dire, je pense qu'ils ne se posaient pas la question. Hein, mais si on leur propose une musique, on ne va pas juger, puisqu'on n'a rien entendu d'autre avant, tout simplement. Donc, on n'a pas d'outil de comparaison. Il y avait aussi une habitude de voilà, ce tempérament était plus en vogue. Nous, on entend la différence, parce que notre oreille s'est formée à autre chose, au tempérament égal. Donc tout le reste nous paraît vraiment des fois difficile à écouter, mais à l'époque ils n'avaient pas ce problème.
Et puis on a notre oreille formée au tempérament égal, j'imagine en Europe occidentale, aux États-Unis, enfin voilà des pays qui nous ressemblent un peu. Et puis on écoute beaucoup de musique. Je dirais à l'époque s'il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait pas de musique.
Exactement.
Donc il fallait aller dans un lieu et s'adapter, je dirais, à la musique. Est-ce que du coup, c'est juste une adaptation ou voilà, peut-être ils arrivaient à s'adapter plus que nous, parce que nous, on ne connaît pas, en fait, ces autres tempéraments. Enfin, moi, je le découvre avec vous, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait une autre façon, enfin, à part avec des civilisations différentes, je ne savais pas qu'il y avait d'autres façons de jouer la musique en Europe. Je ne m'étais pas posé la question, en fait.
Oui, en général, on ne se pose pas la question. C'est en redécouvrant justement les instruments historiques qui sont dans les musées ou quoi, en faisant les calculs, on se dit, mais ça c'est bizarre, parce que en général, on a... Alors, si on peut les essayer, ça, c'est quand même le plus important, de pouvoir essayer un instrument historique. Ça donne les réponses à toutes les questions sur l'interprétation, sur les tempéraments, etc. Comme je reparlais des orgues aussi, si les tuyaux n'ont pas été touchés, on peut à peu près savoir vraiment comment ça sonnait, tout simplement, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Si on retrouve justement, je parlais des orgues, s'ils n'ont pas été raccourcis, si les tuyaux sont intacts, on peut vraiment savoir exactement comment ça sonnait il y a 200 ou 300 ans. La même chose avec mon instrument, la flûte, si on sait que ça n'a pas été raccourci, pour s'adapter au diapason qui monte et qui monte, certains instruments sont vraiment intacts, c'est vraiment très précieux, on peut vraiment savoir quel était l'intervalle entre chaque note et donc découvrir le diapason et le tempérament.
Alors, il nous reste à peu près une minute, Armand, c'est ça? Voilà, avant la fin du podcast, on pourrait vous écouter encore super longtemps. Mais moi, ma question, c'est, à votre avis, pourquoi on s'est mis à aller tous vers le tempérament égal?
Pour s'adapter à toutes les tonalités. On a essayé d'avoir un compromis pour que chaque distance entre chaque demi-ton soit la même. Ce qui permettait de pouvoir jouer en do majeur, en do dièse majeur, en ré majeur, en ré dièse majeur, etc., sans que ça fasse mal aux oreilles, en gros.
Et que les musiciens
vraiment
puissent...
quelque chose de très homogène pour qu'on puisse jouer dans n'importe quelle tonalité, tout simplement.
Et c'était, est-ce que c'était une demande de pouvoir jouer ensemble plus facilement, par exemple ?
Je pense pas que ça a été, le cas. En fait, plus on avance, donc à l'époque romantique, etc., plus on va choisir aussi des tonalités un peu plus compliquées. C'est-à-dire que si on fait une symphonie en mi majeur, par exemple, 4 dièses, ça pouvait sonner extrêmement dur, 4 dièses, avec un tempérament qui fait bénéficier telle ou telle quinte. Alors que si les compositeurs voulaient... vraiment composé dans en fait, ils voulaient une liberté totale de composition, ce qui n'était pas le cas avec les tempéraments.
Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est les tonalités qui ont gagné sur les tempéraments, d'une certaine façon.
Voilà. Le tempérament égal permet de jouer dans n'importe quelle tonalité sans avoir à faire de concessions.
D'accord. Donc, c'est ce qui a fait que ça a amené... est-ce que c'était un tâtonnement avant ou c'était juste un tâtonnement avec tout ça ?
Ça a amené une grande liberté. Ça a amené une grande liberté pour les compositeurs. De mon point de vue de musicienne, moi, je trouve qu'on a beaucoup perdu en couleur, par exemple.
D'accord. Et en formation d'oreille. C'est ça ?
Oui, entre autres. Vraiment, je crois que moi qui travaille beaucoup sur les couleurs pour faire passer encore plus un message, hein, on parlait de rhétorique tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de convaincre quelqu'un pendant tout un concert, c'est de ne pas perdre son auditoire et pour ça utiliser une palette de couleurs la plus grande possible. Et c'est quelque chose que les tempéraments permettent et qu'on a un peu, petit peu perdu avec le tempérament égal.
Et que vous cherchez à nouveau. Eh bien,
exactement.
Merci beaucoup Anna Besson. Encore une fois, c'est un podcast extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Armand aussi, j'espère.
Oui, bien sûr.
Il y aura un examen à la fin. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous écrire sur le site de Radio Présence ou sur le Facebook ou à poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.